Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. Nous recevons aujourd'hui une jeune voix courageuse de la France qui refuse de se taire face aux menaces qui pèsent sur nos filles, hein, sur nos libertés et sur notre identité. Hein. Yona Faeda est porte-parole et militante du collectif Némésis, hein, à seulement 21 ans. Cette étudiante byzantine, originaire d'un parcours marqué par le réel de l'insécurité à Marseille avant de s'installer à Besançon, s'engage sans compromis pour la défense des femmes françaises et pour la remigration des délinquants étrangers. Elle a bravé garde à vue, pression bancaire, menaces et tentatives d'intimidation pour continuer à porter haut le message, la sécurité des Françaises d'abord, la France d'abord. Elle est de ces jeunes qui, face au déni ambiant, osent dire ce que beaucoup pensent tout bas. Yona Faeda, merci d'être avec nous sur Radio Courtoisie. Justement, pouvez-vous nous présenter donc brièvement votre parcours et votre rôle au sein du collectif Némésis et qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce mouvement féministe identitaire ?
Alors bon, je pense que j'ai pas trop besoin de présenter le collectif Némésis, si ce n'est que rappeler que c'est un mouvement en effet féministe, donc de défense contre les violences faites aux femmes, quelles que soient les violences, et on ose dénoncer le fait qu'il y a en effet un problème pour nous entre l'immigration et la sécurité des femmes. J'ai commencé à militer en 2023, donc j'avais 19 ans, c'était fin 2023, et simplement je me suis engagée parce que, comme beaucoup de nos militantes, je suis tombée sur des publications de Némésis sur les réseaux sociaux, Twitter à l'époque, et j'étais épatée, je me suis dit « attends, c'est une parodie, c'est quoi ?» Je vois des filles qui sont en train de dénoncer l'islam, enfin l'impact de l'islamisme sur les femmes et l'impact de l'immigration sur les femmes. Je pensais que je rêvais et que c'était une parodie en fait des gauchistes, littéralement. Et pas du tout, en fait, quand j'en parle à un ami, il m'explique ce que c'est Némésis, que ce sont des filles qui sont très courageuses, qu'elles sont vraiment pas beaucoup pour le moment et que c'est assez risqué en fait de militer quand on a leurs idées. Et sur le moment, j'ai pas osé m'engager, mais c'est quelques mois plus tard que finalement, j'ai sauté le cap et j'y suis allée. Et en m'engageant, j'avais pas vraiment d'idée de devenir porte-parole ou d'être médiatisée, même quoi que ce soit. Enfin, c'était pas pour, c'était pas pour ça, c'était vraiment simplement pour coller des affiches à Besançon à l'occasion. Finalement, comme en fait, à Besançon, c'est une petite ville et que ils n'ont pas l'habitude qu'il y ait la moindre petite opposition, vu que c'est une petite ville étudiante et de gauche. J'ai vite été médiatisée parce que, à peine en collant des affiches, directement, t'as un journaliste de gauche qui te tombe dessus et qui vient te prendre en photo et qui vient. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait et que, comme j'étais médiatisée, Alice m'a proposé de devenir porte-parole du mouvement. Et c'est comme ça que ça fait quasiment 2 ans maintenant, je crois, que je suis porte-parole. Ça passe très vite. J'ai plus trop la notion du temps parce que tout passe très vite, on a une vie, en plus on vit à 100 à l'heure, on s'arrête jamais au collectif.
Je confirme. Oui.
Donc voilà pour mon petit parcours militant.
Alors en janvier 2026, Yona, vous avez été arrêtée et placée en garde à vue. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé et ce que cela révèle sur l'état de la liberté d'expression en France sous Emmanuel Macron ?
Alors, c'est pas la première fois, malheureusement, que je suis placée en garde à vue ce janvier, je sais plus c'était le combien, 18, il me semble. Et en fait, pourquoi j'étais placée en garde à vue ? Simplement, nous étions avec 15 filles à Lons-le-Saunier, une petite ville près de Besançon, et nous étions toutes avec des burkas. Pourquoi, vous allez me dire, 15 filles de Némésis porteraient des burkas à Lons-le-Saunier, cette petite ville tranquille qui n'a rien demandé? Simplement pour demander aux gens, premièrement, ce qu'ils pensent de ce qu'ils voient, en fait, de cette scène. On était sur une terrasse. De ce qu'ils pensent de... Est-ce que ça pourrait être la France dans 50 ans? Est-ce que ça les inquiète? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la liberté des femmes? Et en fait, on était là pour leur poser des questions, donc sur l'islamisme. Pour deux raisons, on a choisi de faire ça. Déjà parce qu'il y avait le World Hijab Day, qui est le 1er février, donc comme son nom l'indique, le jour mondial du hijab, donc c'est la promo du hijab, hein, littéralement, du voile islamique. Et deuxièmement, le contexte, alors ça c'était pas choisi, mais comme c'est tombé en même temps, c'est le contexte iranien qui a toujours été très tendu, ce moment-là, qui était vraiment au cœur de l'actualité, par rapport notamment aux révoltes et aux femmes donc, qui se battent encore et encore pour pouvoir justement se libérer de cette pression islamique qui pèse sur elles. On s'est dit, d'une pierre deux coups, littéralement, on va pouvoir faire cette action et demander aux gens ce qu'ils en pensent et faire un lien notamment avec l'Iran. On était là-bas pour ça, la police nous a vus. Enfin, quelqu'un a appelé la police, du moins, pardon. Et ils ont intervenu et ils nous ont pris nos identités aux 15 militantes. Ils nous ont mis 6 amendes, il me semble, pour, je cite, couper la poire en deux, parce qu'ils étaient quand même un peu sympas. Mais quand même 6 amendes. Et moi, ils ont décidé par ordre, alors attendez, ça c'est des termes, le procureur, la procureure, je crois, ou l'adjoint de la procureure, enfin bref, quelqu'un de très haut placé qui, comme d'habitude, a décidé de m'envoyer en garde à vue. J'ai été placée en garde à vue pendant 5 heures en cellule. Et à l'issue de ma garde à vue, je vois le policier redescendre et aller dans le casier où il y a mes affaires. Et là, je me dis, ouf, ça sent pas bon du tout. Oui, et en fait, en effet, ils ont pris mon téléphone. Ils ont pris mon téléphone, ils l'ont placé sous scellé pendant 3 jours, ils ont fouillé dedans. Je sais pas comment ça se passe, ils peuvent en faire une copie, on m'a dit qu'ils pouvaient, donc peut-être que la police a actuellement l'intégralité de mes données sur un ordinateur, mais en tout cas ils ont fouillé dedans, il m'a montré ce qu'il avait sélectionné hein, comme photo et comme vidéo ouais, quand bah, il me l'a rendu, ce que j'ai demandé.
Ils se doivent d'eux d'ailleurs.
Et voilà. Et ce qu'il a sélectionné, pour le coup, ce sont uniquement des images du jour même, il n'y a pas de photo, enfin... Par rapport à ma garde à vue que j'avais fait l'année 2 ans avant, donc en avril 2024, là, ils avaient fouillé dans toute ma galerie, ils avaient tout regardé. Et là, monsieur a juste regardé ce qui intéressait, entre guillemets, pour cette affaire. Des 15 affreuses filles en burqa qui osent dénoncer que c'est peut-être pas bien de traiter les femmes comme ça. Bon, voilà pour cette fameuse garde à vue à Lons-le-Saunier.
Oui, on est quand même chez les fous, c'est quand même particulier.
Et, hein. Oui, et pour répondre à la fin de votre question, ce que ça veut dire alors par rapport à la liberté d'expression...
Voilà.
Et sous Macron particulièrement, je pense que c'est de pire en pire. Enfin, littéralement, le moindre... Enfin, ça dépend pour qui. Évidemment, à la gauche, on lui laisse tout passer. Ils peuvent tenir des propos, que ce soit antisémites, même racistes, hein, parce que le racisme anti-blanc existe, et ils se lâchent assez dessus. Et même, il me semble qu'il y avait Raphaël Arnaud, par exemple. Alors, c'est pas un propos, mais c'est quand même révélateur, qui refusait, il me semble, d'avoir des collaborateurs ou des assistants parlementaires, je sais plus, mais qui étaient d'origine extra-européenne, il me semble. Donc, comme quoi, il y a un laissez-passer qui est assez fou à la gauche, mais dès que c'est une association qui est à peine à droite, à peine identitaire, là, c'est garde à vue immédiate à la moindre de ses actions. Encore, chez Némésis, on est assez épargné niveau garde à vue. Enfin, oui et non, hein, judiciairement, on est vraiment traqué. Mais je connais des collectifs dont je ne pourrais même pas citer le nom, parce qu'il y en a un paquet qui font une garde à vue systématiquement après chaque action. Je pense notamment à ceux qui avaient fait une action pour... Oui, c'est ça, les natifs pour le Bataclan, il me semble, au Trocadéro. Ça, c'est affligeant, faire une garde à vue pour ça.
Yona, juste une petite pause, un petit message pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Yona, récemment, vous avez révélé avoir reçu des menaces d'un militant antifa qui a contacté votre père et mentionné votre adresse. Comment vivez-vous ces intimidations et que demandez-vous au ministère de l'Intérieur pour protéger des militantes comme vous ?
En fait, comment je le vis, c'est-à-dire très mal évidemment, dans le sens où quand je me suis engagée et quand j'ai pris le risque en fait, de m'exposer médiatiquement et d'exposer mon visage et mon identité, ça n'engageait que moi. Je ne voulais pas, évidemment pas engager ma famille là-dedans. Et là, le fait que ce soit mon père qui reçoive des menaces qui me sont dirigées, mais indirectement, donc qui servent en fait d'intermédiaire par rapport à ça, c'est inquiétant. Enfin, ça m'inquiète, ça me révolte même quand mon père m'a dit qu'il venait de se faire appeler par quelqu'un qui connaissait notre adresse. Et qui, parce qu'en fait, dans l'appel... il appelle mon père, c'est un peu confus cet appel, pas vraiment de sens, mais au début il lui demande s'il connaît elle et fille, donc mon père lui dit non je connais pas elle et fille, enfin, laissez-moi tranquille, machin, et au bout d'un moment dans l'appel le monsieur lui dit vous habitez bien à telle adresse, en donnant certaines précisions pour montrer qu'il connaît bien bien où j'habite, donc mon père lui dit oui, après il finit par lui dire vous avez pas une fille qui s'appelle Yona par hasard, donc oui
on
encore
on l'entend
une
d'ailleurs, vous l'aviez diffusé.
Oui j'ai diffusé un extrait de l'appel qui dure 4 minutes, mais j'ai diffusé les parties où on comprend clairement que c'est une menace, en fait. Et à la fin, la personne finit par dire « Ah, vous connaissez pas les filles ? Bah, demandez à votre fille, elle doit savoir. » Et elle lui dit « Moi, j'habite à Lyon, c'est à côté, je peux passer si vous voulez. » Alors, Besançon et Lyon, c'est pas si à côté que ça. Je sais pas si la personne habite vraiment
mais
à Lyon.
Peut-être revoir sa géographie.
Ou si c'était justement un. Comment dire, pas. Un mauvais clin d'œil par rapport à ce qui s'était passé 4 jours avant, à ce moment-là, à savoir le meurtre de Quentin Durand.
Attends, on va en reparler.
Donc c'était pour appuyer un peu le côté morbide de l'appel, préciser qu'il habitait à Lyon, voilà. Peu importe, en tout cas, ça a mis une certaine pression, évidemment. J'ai demandé, on a demandé avec le collectif et Alice, la présidente du collectif, Alice Cordier, d'être sous protection policière au ministère de l'Intérieur. Alors pour l'instant, j'ai pas de réponse, mais j'aimerais vraiment que cette demande soit prise au sérieux. Je parle de la protection vraiment où quelqu'un est avec moi en permanence. Alors j'aurais aimé ne pas en arriver là, mais simplement quand on reçoit ce genre de menaces, à savoir Besançon, c'est encore une fois une petite ville, c'est de gauche, j'ai déjà des problèmes dès que je sors, c'est systématique. Dans le meilleur des cas, quand je sors en ville, j'entends au moins 3 fois quelqu'un qui crie facho quand je passe dans la rue. Dans le pire des cas, je me fais sortir de certains bars, je me suis déjà fait alpaguer, enfin, limite poussée hors d'un bar.
Etc.
Donc je sais, je dis bar parce que c'est là en général que les étudiants sortent et où je me fais le plus embêter. Mais même en ville, de manière générale, je vois des regards, je sais que les gens me reconnaissent, parlent de moi en me pointant du doigt. C'est assez pesant comme climat. Donc c'est pour ça que quand on ajoute une menace qui est directement, c'est chez moi en fait, c'est chez moi et chez mon papa, donc c'est pour ça qu'on aimerait oui, que ce soit pris au sérieux par le ministère de l'Intérieur.
Justement, vous parliez de l'affaire du meurtre de Quentin à Lyon, survenu donc il y a quelques jours maintenant, qui suscite une vive émotion. Vous avez critiqué donc le procureur. Pour l'absence d'interpellation malgré les preuves, selon vous, pourquoi une telle différence, Yona, de traitement par rapport à vos propres gardes à vue pour des actions pacifiques ?
Alors, et c'est vrai qu'il y a deux points de vue, c'est-à-dire, j'ai quand même vu beaucoup de commentaires de personnes qui m'expliquaient qu'en effet, quand c'est une affaire pour meurtre, enfin assassinat, il faut plus de temps à la police pour pouvoir faire des recherches avant d'arrêter les personnes. Mais moi, je trouvais ça quand même hallucinant. Oui, c'est vrai qu'il y a un deux poids deux mesures dans le sens où nous, on est placé en garde à vue directement pour rien et perquisitionné. Moi, j'ai été perquisitionné quand même hein, pour une pancarte. J'ai un téléphone placé sous scellé, tout ce que vous voulez. Et par contre, des gens qui sont suspectés d'avoir tué quelqu'un, qui ont été vus par plusieurs, identifiés par plusieurs de nos militantes ou même de personnes extérieures à ce qui s'est passé et qui sont toujours en train de se pavaner 48 heures après, moi, je trouve ça très grave. Je ne comprends pas comment c'est possible. Enfin, je me dis, mais il y a tellement de preuves qui ont le temps d'être effacées, que ce soit les vêtements. Il suffit qu'il y en ait deux qu'on n'arrive pas à identifier sur les caméras parce qu'ils étaient trop bien masqués. Bah, on ne saura peut-être jamais qui c'est parce qu'entre-temps, en effet, ils ont eu le temps de rentrer chez eux, d'effacer tous les messages, d'effacer plein de choses, de brûler littéralement. Enfin, évidemment, quelqu'un qui est accusé, qui a à voir de près ou de loin dans une affaire de meurtre, première chose qu'il fait quand il rentre chez lui, il va dans une forêt et puis il brûle tout ce qu'il avait le jour même. Enfin. Donc c'est pour ça que je trouve ça quand même assez étonnant qu'en 48 heures, il n'y ait toujours aucune... Enfin, il n'y avait aucune interpellation, maintenant, heureusement, c'est le cas, par rapport à une affaire aussi grave. Pendant que nous, à côté, en effet, pour militer, je vous le dis, c'est perquisition, garde à vue et téléphone sous scellé dans les 24 heures. Quoi. Donc est-ce que c'est révélateur de quelque chose? Oui, bien sûr, c'est toujours cette justice de poids de mesure. Et il me semble hein, qu'en plus, certains des militants ou des personnes présentes sur place lors de ce lynchage, hein, des personnes qui ont participé au lynchage, avaient leurs parents qui étaient plus ou moins juges, plus ou moins impliqués dans certaines... étaient dans d'assez bons postes à Lyon aussi. Donc est-ce qu'on peut se demander, on ne dit pas que c'est le cas, mais on peut se demander aussi si parfois ça n'a pas d'influence sur la manière dont sont traitées ces personnes.
Le collectif Némésis donc, milite aussi pour l'expulsion des violeurs étrangers. À la lumière des débats actuels sur l'immigration et la sécurité des femmes, comment évaluez-vous les politiques du gouvernement français en matière de protection des victimes ?
Elles sont absolument zéro, si je puis me permettre. Pour le coup, je ne sais pas. Enfin, c'est vraiment... C'est bateau comme réponse, mais c'est ce qui m'est venu en tête au premier abord, parce que oui, nous, c'est en effet notre slogan, violeur étranger dehors, je pense qu'il n'est pas passé inaperçu. Si on demande ça, c'est pas juste comme certains essaient de le faire croire à gauche par une haine des étrangers qu'on veut absolument... Non, c'est vraiment juste parce qu'on se retrouve en 2026 en France, une année de plus, hein, avant on disait en 2025, avant on disait en 2024, là maintenant on est en 2026 en France, il n'y a toujours aucune mesure qui n'est faite pour expulser les personnes qui ont commis des viols, parfois des agressions sexuelles. On l'a vu plusieurs fois, c'est simplement l'application des OQTF. Donc ça, c'est pourtant quelque chose qui existe dans la loi française. C'est pas quelque chose... On ne demande pas à ce que quelque chose soit créé, on demande simplement à ce que la loi soit appliquée. L'application des OQTF, obligation de quitter le territoire français. Mmh. On sait qu'il y en a 6%, il me semble, en 2025, qui ont été appliqués.
Exactement.
6% seulement. Et résultat, on a des multirécidivistes, comme d'habitude, qui continuent à agresser des femmes sur notre territoire. Pas seulement, évidemment, parce que l'insécurité ne touche pas que les femmes, mais nous, comme on est féministes, on va pointer le doigt sur ça. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des victimes comme Philippine, comme Claire Géronimi, et comme Lola, ou tant d'autres noms que je ne saurais citer, tellement il y en a, malheureusement. Donc oui, l'État n'est pas du tout attentif par rapport à ces problématiques. Et aucune solution n'est proposée, c'est le cas de le dire.
Et vous dénoncez aussi souvent les risques posés par l'islamisme radical aux droits des femmes. Hein. Avec les récentes tensions en Europe et en France, pensez-vous que le mouvement féministe traditionnel est suffisamment vigilant sur ces questions ?
Non, pas du tout. Et ça encore, c'est ce deux poids, deux mesures. C'est un féminisme qui va dénoncer le patriarcat blanc, mais pas le patriarcat barbu. On peut dire ça comme ça. On se retrouve avec des féministes aujourd'hui qui défendent corps et âme une religion, une idéologie, au-delà d'une religion, qui est complètement liberticide, en fait, pour les femmes, qui prône la soumission de la femme, qu'on puisse le voir dans les textes comme les sourates, hein, en parlant du Coran, qui appellent directement les hommes à frapper leurs femmes si elles sont désobéissantes, hein, la sourate 434 qu'on connaît bien maintenant, et qui vont même jusque au-delà de ça, ouais, comment dire, faire la promotion du voile, et ça, je trouve ça complètement hallucinant, de vouloir, quand tu es féministe, absolument te battre pour que des femmes puissent mettre le hijab, le voile, librement. Librement, justement, c'est le terme qu'elles emploient, c'est une liberté pour elles de faire ça, alors que encore une fois, on fait ce parallèle avec l'Iran qui se bat pour pouvoir l'enlever, et il y a des femmes qui sont mortes pour pouvoir enlever ce voile justement qui leur est imposé, parce que c'est un objet de soumission de la femme. Donc non, ce féminisme à double tranchant, encore une fois, comment dire, en fait, on dirait, elles ont la menace en face des yeux, mais elles ne veulent pas peut-être la voir, ou elles font exprès de ne pas la voir. Pourquoi, je ne sais pas, à la fin, pour défendre toujours les minorités, toujours la bien-pensance, etc. Mais en réalité, ça n'a pas de sens, en fait.
Et je précise aussi que le collectif Némésis, là, vous citiez un des extraits, etc. Anaïs, quand elle est venue aussi, voilà, elle se documente avant, vous voyez.
Oui.
Et je pense que vous, ça doit être pareil. Vous vous documentez, va-t-on dire. Je ne veux pas parler à la place du collectif, mais
oui, non, mais tout à fait.
Vous balancez pas des trucs comme ça. C'est ça. C'est là où je voulais.
Non, on a souvent d'ailleurs des formations de personnes qui nous proposent, des personnes qui sont apostats d'islam, des apostats de l'islam qui nous proposent de nous faire des formations, tout simplement, où ils nous parlent, ils nous expliquent. On est en contact avec des personnes qui, encore une fois, soit se sont beaucoup documentées sur l'islam, soit se sont beaucoup aussi documentées sur l'islam, mais parce qu'ils étaient musulmans avant et qu'ils ont quitté. Je trouve ça encore plus marquant, en fait, et que ce sont limite les mieux placés pour en parler, parce qu'ils ont vécu dedans, et ils ont eux-mêmes compris, malgré le fait, parce que c'est parfois dur, hein, de sortir... C'est de l'endoctrinement, en fait. Donc, en sortir, c'est d'autant plus noble. Et donc, se renseigner et réussir à venir dire pourquoi on en est sorti, on est en contact avec ces personnes, donc, et qui nous apprennent beaucoup de choses par rapport au danger que représente, à la menace que représente cette religion, oui, cette idéologie.
Et face à la violence politique comme celle observée donc, lors de la marche pour Quentin, où des slogans extrêmes ont été... signaler, comment envisagez-vous l'avenir du militantisme patriotique en France ?
Alors, cette marche, bon, déjà, moi, je n'y étais pas, donc je ne vais pas pouvoir trop m'avancer non plus dessus, mais des témoignages que j'ai pu entendre de beaucoup d'amis ou beaucoup même de personnes qui y sont allées, sur des milliers de personnes. Alors, d'après les médias, d'après la préfecture, 3000, d'après des gens qui...
Vous parlez à Lyon, hein ?
Oui, à Lyon, oui. Ouais. D'après la préfecture, 3000, d'après d'autres personnes, beaucoup plus, mais peu importe, sur ces milliers de personnes, en effet, j'ai entendu qu'il y avait eu quelques petits dérapages Alors malheureusement, il y a des imbéciles partout, on ne peut pas empêcher ça. Mais c'est aussi ce qu'a voulu rendre comme image la gauche de cette manifestation, qui en réalité était digne, était pacifique, était une marche blanche, en fait, hein, tout simplement, en hommage à quelqu'un qui est décédé, et ça ne représentait pas la manifestation. Alors, c'est quoi la fin de votre question, désolé ?
Alors, c'était de savoir surtout si vous, comment vous envisagez en fait l'avenir du militantisme patriotique en France.
Écoutez, je suis peut-être optimiste, mais je pense que justement, malheureusement, ce drame a peut-être réveillé encore plus les Français, les jeunes patriotes, les jeunes de manière générale.
Vous pensez ?
Je pense parce que, évidemment, quand on a appris ça, beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension, surtout nous, collectifs, qui sommes directement touchés par cette histoire. Mais sans être directement touchés par cette histoire et juste en l'entendant à la radio, je pense qu'il y a aussi beaucoup de haine, malheureusement, hein, mais de haine, d'envie de se révolter, en fait, dans ce sens-là. Pas de la haine en allant
bien
se
sûr,
venger, etc.,
bien sûr, bien sûr.
Mais en allant s'engager, justement, et en allant militer parce que. C'est aberrant en fait, on ne peut pas tuer quelqu'un pour ses idées et quelqu'un, justement, on peut continuer à le faire vivre en faisant vivre ses idées. Donc j'envisage les choses avec un certain optimisme.
Et pour terminer, quel message adressez-vous aux auditeurs de Radio Courtoisie, particulièrement aux jeunes femmes qui pourraient vouloir s'engager comme vous ?
Bien, aux auditeurs. Donc auditeur et non pas auditrice, je dirais engagez-vous, peu importe dans quel collectif, mais quelque chose qui représente vos valeurs, quelque chose de patriote, d'identitaire et quelque chose qui œuvre pour la France, c'est important. Soutenez, si vous ne pouvez pas vous engager, ces collectifs ou ces associations, essayez d'œuvrer pour la France à votre échelle, à votre manière. Et pour les jeunes femmes qui nous écouteraient, ou même pas les jeunes femmes, les femmes de manière générale qui nous écouteraient, rejoignez-nous évidemment, venez militer au collectif Némésis. Les portes sont grandes ouvertes et nous avons besoin, le nombre fait la force comme on dit.
Et aussi rappeler que voilà, collectif Némésis, vous avez aussi des sympathisants hommes. Hein,
tout à fait.
Je vous laisse en parler, parce que les hommes n'osent pas... J'ai eu des exemples autour de moi, c'est pour ça que je me permets.
Eh bien, on a beaucoup d'hommes qui nous demandent s'ils peuvent venir militer. Simplement, le côté militantisme est vraiment sur le terrain et réservé aux femmes, ce qu'on estime, non pas qu'on soit misandre, mais que simplement, ce sont des problématiques qui nous touchent directement et que c'est à nous, en fait, d'aller dans la rue pour combattre pour se battre justement pour nos droits et pour notre sécurité. Mais simplement, si vous êtes un homme, vous pouvez quand même nous aider en demandant le statut de sympathisant qui est sur notre site et que vous pouvez aller voir collectifnemesis.com, devenir sympathisant et vous aurez toutes les informations dessus.
Très bien. Vous avez quelque chose à rajouter, Yona ou...
Écoutez, non. Merci pour cet échange de m'avoir invité.
Je vous en prie. En tout cas, j'espère que votre demande quant à ce nouveau délire, va-t-on dire, de cet appel complètement... c'est même pas farfelu, c'est...
Oui, à ce stade, c'est,
voilà,
c'est dément, ouais.
Votre demande va aboutir, parce que c'est quand même... on est chez les dingues, un peu, là. Hein, quand
oui,
même,
oui.
Hein, ça commence à être un peu beaucoup.
Ça prend des proportions, surtout quelques jours après l'assassinat de quelqu'un pour ses idées, venir me menacer...
C'est lamentable. Écoutez, Yona Faeda, ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes porte-parole et militante hein, du collectif Némésis. Encore merci, et puis j'espère à bientôt hein, pour faire un point si vous le souhaitez.
À bientôt.
Avec plaisir. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris. Car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. À mercredi prochain et bonne semaine.